ces dernières années, j'ai travaillé sur les récits de voyage du XVIIe siècle. Donc, j'ai divagué dans le temps et dans l'espace. Bon, je suis restée dans la zone caribéenne, mais toujours en gardant, glissant tout près de moi. Mais cette conférence, c'est vraiment une occasion aussi à revenir à sa pensée, à son œuvre, surtout à ses textes. Et ce que je vous présente aujourd'hui, pourtant, c'est vraiment un work in progress. C'est une tentative de rapprocher son écriture aux sound studies, aux études de son. Et en fait, en réalité, j'ai toujours, je l'avoue, considéré l'éco-poétique de Glissant comme étant surtout visuelle. Je te remercie, Cécile, de me donner le droit de garder ta photo. Il trame à travers l'écriture des images pour suggérer des paysages que l'on a l'impression de toucher grâce à la force des mots qui s'entassent les uns sur les autres et font entrer le lecteur dans la nature, nous font bouger dans la densité d'une forêt, glisser au long de la boue d'un morne. J'entends donc éco-poétique au sens de Pierre Schoenches comme l'expression, et je cite, « d'une expérience concrète » de participation à l'oikos terrestre auquel l'homme n'est pas exclu. Glissant nous fait intuitivement sentir et vivre le monde, on voit les îles s'y répéter, on reconnaît un paysage qui nous est totalement étranger, des traits à des paysages qui nous sont connus, comme une sorte de mise en scène du credo « le lieu est incontournable » qui passe par la visualité. Pourquoi donc éco-poétique et résonance? Que font les bruits et les sons à l'éco-poétique de Glissant? Après avoir creusé davantage son écriture, il devient évident que la sonorité est justement là, si ce n'est que de manière indirecte, sous forme d'écho, vibration, tremblement, frémissement, autant de mots qui évoquent la production et la réception de sons, la résonance. Peut-être, en effet, pourrait-on dire que le visuel et l'auditif opèrent ensemble. Aussi, nous nous souvenons, écrit Glissant, de la parole de Paul Claudel, « L'œil écoute ». Et rappelons-nous que le discours antillais termine sur le terme « entendu » mis en italique. Mais pour un suédophone, c'est très facile à mélanger avec « étendu », justement. La force de l'éco-poétique de Glissant est qu'elle tente d'utiliser l'écriture comme moyen de penser avec la nature, on l'a vu tout à l'heure, de nouer avec un langage de la nature qui restera, elle, toujours insaisissable, opaque, une éco-poétique de la relation où le sensible est mobilisé afin d'établir un rapport. Tout ce qui est non-verbal, donc, est opératoire dans la mesure où elle nous éloigne du logos anthropocentrique et nous rapproche d'une autre manière de se rapporter au monde. Dans cette communication, je propose d'explorer comment la sonorité peut nous aider à comprendre le langage du paysage. J'analyserai dans la foulée ce qu'une compréhension sonore de ce langage peut apporter à l'investigation des dimensions de la poétique glissantienne. Dans une optique plus large, cette présentation s'inscrit dans un champ d'études émergent qui est le Sound Studies, qui croise donc l'éco-critique, et je pense aux travaux en art sonique, sound art, à l'éco-musicologie, ainsi qu'aux études consacrées aux rapports entre médias, son et nature, comme celle de Timothy Morton, Ecology Without Nature, Douglas Kahn, Earth Sound Earth Signal, et Jacob Smith, Echo Sonic Media, pour ne mentionner que quelques-uns. Donc il y a vraiment un champ de travail qui est en train de se construire là. Et Glissant est un référent central dans ce champ, mais à ma connaissance, n'a pas vraiment étudié la fonction de la sonorité et son lien avec l'éco-poétique dans son écriture propre. Donc, inspiré de ces approches, ma définition du son est large, incluant bruit, musique, cris, enfin des références à ce que l'on peut entendre ou ce qui émet des fréquences, des ondes. L'essentiel, c'est vraiment la dimension non-sémantique, là. En ce qui concerne le concept de résonance, on le retrouve en théorie littéraire. Whitehead Dimmock, par exemple, l'utilise pour conceptualiser comment un texte voyage dans le temps, et c'est la qualité sonore qui peut porter un changement sémantique quand un poème est réactualisé dans un autre espace-temps. De plus, il est utilisé en sociologie à la suite de ce grand livre de Hartmut Rosa, Résonance, une sociologie de la relation au monde, où la résonance traduit plutôt une manière de l'homme de se retrouver en harmonie avec son entourage. Ces deux interprétations sont importantes. La résonance établit une relation sonore à la fois spatiale et temporelle, mais qui, contrairement à ce que propose Rosa chez Glissant, il n'y a pas vraiment d'opposition entre résonance et dissonance, je dirais. Bien au contraire, la dissonance est aussi une forme de résonance, de mise en rapport avec les vibrations d'un autre corps. En effet, on entend des échos de ces deux conceptualisations de la résonance et la pensée glissantienne. Et je cite, « Le tissu du poème est trouble, indiscernable, le poème va sa route par-dessous, il manifeste ses éclats ouais, dans toutes les langues du monde, cris ou paroles, c'est-à-dire dans toutes les directions où nous nous sommes peut-être perdus, ils s'étendent de vérité d'un paysage en vécu, d'un autre, le poème nomade, il roule de temps à temps. » Donc le poème errant, il traverse l'espace et le temps, comprenant expressions non linguistiques aussi bien que toutes les langues du monde, et il s'étend en paysage. J'analyserai dans un premier temps la manière dont Glissant construit des paysages, des sons, donc des soundscapes, ce que Murray Schafer interprète comme des interrelations entre le contexte sonore et les organismes qui l'occupent, qui devient dans l'univers glissantien une manière de penser la dimension historique et sociale de la nature et du paysage. Et dans un deuxième temps, j'explorerai la portée de la sonorité éco-poétique dans ses réflexions autour du langage poétique. L'expression non linguistique, bruit, son, cri ou plus large, rythme, musique, est essentielle pour ne pas dire fondamentale à l'écriture glissantienne. Le non-verbal fait partie de la poétique de la créolisation liée au gouffre de la traite, à la plantation, à la dépossession. Et je pense surtout ici à l'essai « Poétique naturelle, poétique forcée » qui conceptualise le bruit comme producteur d'un contresens en tant que réaction à la fois du système de domination qui refuse à l'autre l'espace de se dire, mais aussi en tant qu'appropriation de la réduction à laquelle l'esclave est soumis. « Tu me réduis au bégaiement, alors je veux systématiser ce bégaiement, créant ainsi un bruit qui est porteur d'un sens qui échappe. » Il y a un lien entre l'impossibilité de se dire et la formation d'un langage autre qui échappe et le paysage. Regardons ce passage souvent cité dans l'intention poétique. Ici, les rochers semblent de terre, amalgamés d'un sang de craie qui s'éponge et s'enracine dans le tuf rouge. Leur antre est encombré de cadavres perdus, des corps fantômes, qui d'avoir été semés au tréfonds de temps, là, oubliés, ont poussé leur véhément pourriture dans le roc. Nous crions, mais de cris taris qui ne peut ouvrir les rochers ni la terre. Nature et culture se confondent dans le paysage qui devient monument. Le paysage a son propre langage auquel l'écriture tentera de se nouer. Dans ses textes, dans sa poésie aussi bien que dans les romans et dans ses écrits théoriques, Glissant ne cesse pas d'explorer la lecture de la nature et sa traduction. Les signes non linguistiques du lieu transformés en texte exigent un travail de matérialité, même du langage, on l'a vu tout à l'heure, comme si l'écriture était faite d'argile et de roche. Le paysage crée un langage non linguistique formé de traces que le spectateur doit lire. « J'espère en la parole du paysage », écrirait-il plus tard. Mais là, on reste dans le visuel. Le paysage-texte donne aux yeux. Mais dans les marches de cette figure de pensée, on note aussi que le paysage glissantien parle. Il invite à l'écoute aussi bien qu'à la lecture. C'est comme si ce langage de paysage interpelle l'homme, mais celui-ci, dans la citation, ne peut répondre que par les cris. Il y a donc un dialogue initial, mais qui ne peut devenir discours. La poétique forcée concerne donc le rapport à la terre. Et ici, il est question d'une impossibilité de prise de conscience du passé qui requiert une langue pour rendre visible la mémoire refoulée, pour parvenir à un changement au niveau social. Il y a un écho entre ce passage et le marcheur de la plage de diamants décrit dans Poétique de la relation. Ce marcheur muet, avec qui l'auteur parvient de créer contre toute attente une communication muette, utilisant des bribes de ce langage, des gestes, dont Jean-Jacques Rousseau dit qu'il a précédé toute langue parlée, paraît dialoguer avec les rythmes de l'île. La cadence de sa marche, de plus en plus accélérée, s'accorde à l'allure du monde. Le marcheur construit une sorte de savoir que les autres choisissent d'ignorer, mais il n'arrive pas à transmettre cela en paroles. Sa poétique se borne à la marche. Lysandre se demande dès lors, le chaos n'aurait-il pas de langage qui vaille, ou bien n'en produirait-il que d'une sorte réductrice et néantissante? Son écho s'amenuiserait-il dans un sabir des sabirs à niveau de hurlement? Dans l'intention poétique, cette relation troublée impliquait le sujet dans son incapacité de porter et de traduire le passé en discours. Plus tard, je crois qu'on le voit déjà dans la poétique de la relation, ça sera avec l'urgence de la crise climatique qu'elle prendra des ampleurs plus générales, évoquant la nécessité impérieuse d'écouter la végétation, les animaux, la géographie, d'établir un rapport autre à la terre. Et justement, si la lecture rythmique, corporelle et auditive du paysage, du marcheur donc, aboutit à une impossibilité de la parole, quelque chose s'est cependant produit. Mais pas tellement du son, mais justement une résonance entre la manière d'habiter le monde et la nature. Les paysages font écho, écrit Glissant, et précise que l'on retrouve sur la plage le frémissement du monde et le marcheur lui-même est un écho-monde. L'écriture explore un rapport de vibration sensible, l'emphase dans le texte sur l'écho, met en valeur la qualité relationnelle, justement, du son, un bruit qui se répète et s'étend à la rencontre d'un autre corps qui le répercute, diffuse dans le monde. Dans La Couée du Lamantin, cette lecture du langage du paysage comme vibration est mis en rapport avec une spatialité plus large, devenant une manière de se mettre en relation avec d'autres espaces, comme dans cet extrait intitulé « Au plus obscur des musiques ». Et je cite, elle est assez longue. « Devant la mer encore, une forêt à tracer, c'est sous un autre horizon, dans un autre pays, ce qui court d'un des arbres à l'autre. » Ils sont alignés comme des eaux qui se rassemblent, fleuries en un récital incompris. Nous confondons les musiques, nous ne devinons pas ce qu'elles accordent. C'est que nous méprenons les violences qu'elles sécrètent doucement et que le bruit transporte. J'aime les musiques parce que j'aime la semblance des bruits du monde. Le silence, un lait très étroit, c'est-à-dire c'est dire une orée de l'être, s'échange dans la forêt avec les chants primordiaux. Là où les musiques se touchent, l'eau monte dans la forêt, les clairières sont des tambours ailants. Quand le silence, enfin, s'émêle au bruit, commence la mystérieuse bleuté de toute musique. Le silence fait de ce bruit un son. C'est lui qui transforme la battue des sons en une qualité souple et irréductible, un fleuve ou un torrent, ou un marais pesant, une eau qui monte dans cette forêt ou cette brousse. Si le sujet de ce passage est la musique, Glissant la configure et avec elle d'autres formes d'expression avec le paysage. Il va ici d'un pays à l'autre, opérant dans l'écoute, mais sans prétendre à la compréhension, un récital incompris, nous me prenons les violences, et ainsi de suite. La musique unit les bruits du monde, aussi bien que le silence, qui est lui producteur de sons. Et toute cette image du tout monde, pris dans un processus de créolisation, est portée par le son. C'est la sonorité qui capte ce que l'on pourrait qualifier d'éthique dans l'éco-poétique de Glissant, qui tend un peu vers l'utopie aussi. Un monde où les êtres humains, enfin tout, tous les vivants se contaminent, écrit-il, mutuellement. C'est l'identité relation rhizomatique en étendue. Et Glissant propose une écopoétique ancrée dans la matérialité concrète du paysage, menant à une épistémologie intuitive de l'ailleurs, du monde et de l'avenir, pourtant imprévisible. Les paysages sont des catégories de l'étang, du vivant, qui entraînent le poète dans un double mouvement vers l'extérieur en étendue, mais qui résonnent à l'intérieur. Surtout, l'ouverture vers le paysage, les lieux, permet de cerner ce qui est fondamental à la théorie de la relation. Je peux relater à l'autre comme je relate au monde qui m'entoure, sans nécessairement le comprendre. Et la résonance, justement, n'a rien à voir avec la sémantique, et c'est pourquoi je crois que c'est un cas de figure extrêmement important. Il convient ainsi de rapprocher le langage du paysage à ce que François Julien appelle l'inouï. L'inouï, c'est cette dimension du son que l'on ne peut pas saisir entièrement. Et c'est quelque chose aussi d'inattendu, hein, porté vers l'imaginaire. Il partage donc avec la créolisation glissantienne l'idée de l'imprévisible. Être ouvert à l'inouï, c'est écouter sans prétendre à entendre dans le sens de comprendre. Donc la référence à l'écoute, à Lévinas, c'est ici évident aussi. L'écoute se borne à la réceptivité du bruit dans les vibrations et sans anticipation sémantique. L'écoute, dans ce sens, sera la modalité privilégiée pour respecter l'opacité de l'autre. Elle suppose une mise en relation avec l'autre qui respecte le droit de ne pas faire sens. En outre, le bruit, l'écoute et son transfert en écriture ouvrent une brèche dans le temps. Et là, je viens au deuxième point de cette présentation. L'articulation temporelle et le rôle de la sonorité dans l'esthétique glissantienne se voient entre autres dans la couée du Lamantin. Glissant évoque ici son enfance à Bézaudun et comment sa mère le portait sur son dos en descendant la trace du morne qui menait, là je cite, au bruit éternel de l'eau coulant là en bas. J'avais un peu plus d'un seul mois d'existence et il faut douter si j'entendais ce bruissement qui sillonnait dans l'air et semblait arroser toute chose. Pourtant, je l'écoute encore en moi. Fin de citation. Le passage est un des plus bels exemples de l'écopoétique de Glissant, je pense. La citation est suivie d'une véritable texture de végétation qui mérite d'être écoutée et analysée. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est l'évocation du son. Le bruit dont il parle vient de la lézarde, de cette rivière, le fleuve qui a joué un rôle tellement important, n'est-ce pas, dans son œuvre. Mais sous l'effet de la crise climatique, cette rivière a pratiquement séché. Hein. Glissant reviendra plus tard à cette scène dans Philosophie de la relation. J'entends pas le ruissellement jadis persistant du bruit de la rivière d'en bas, n'est-ce pas? Il y a donc une affirmation et une négation de cette éternité du bruit, n'est-ce pas? En plus, il se répétera ce bruit, mais dans une autre constellation. Car dans Philosophie de la relation, Glissant retourne au Bézaudun pour chercher la case de son enfance, on l'a évoqué tout à l'heure, et il raconte comment il fait le même trajet, mais maintenant avec son fils Mathieu. N'est-ce pas? Encore enfant, je ne sais pas quel âge il avait, hein? Quelques années auparavant. Et il écrit « Accroché à moi, tout effrayé par cette image du vide et du délaissement, Mathieu s'était détourné vers le bruit désormais affaibli de la rivière d'en bas. » Fin de citation. Donc cet enfant faisant attention au bruit de l'eau vient affirmer ce pressentiment de sa propre enfance, qu'il avait en effet, malgré son bas âge, il avait écouté la nature et que cette impression auditive est restée au plus profond de lui-même. Et c'est comment, écrit-il, la lecture de cette paysage, de cette partie du paysage de Martinique m'est venue. Fin de la citation. Le rapprochement de ces passages permet de creuser la dimension temporelle complexe de la sonorité chez Glissant. Le ruissellement de la rivière se tait, mais demeure en tant qu'écho dans la conscience profonde du poète, comme un rappel de son appartenance à ce lieu qu'il portera avec soi. Le rapport au monde dans cette configuration est bruit, mouvement, c'est-à-dire rythme à travers le paysage, avant de devenir langue. C'est un partage prélinguistique du sensible, peut-on dire. Il évoque les odeurs, le chuitement des eaux douces chavirées sous le roche, le poids de la chaleur et ainsi de suite. Cette expérience est très concrète, c'est une véritable inscription dans l'oïkos terrestre et imaginaire à la fois. À travers la relation étroite entre le sujet et son lieu, la sonorité traverse le temps de glissant bébé à Mathieu enfant, mais plus loin encore dans, au temps géologique, comme si une chaîne de vibrations s'est mise en mouvement pour plonger le poète, je cite encore, dans une connaissance primordiale qui ne demandait qu'à ressurgir. Par ce biais, l'éco-poétique ouvre sur une temporalité amalgamée, un temps tourbillon, troubouillon, qui mène à penser l'origine de langue et de la poésie. Les pages qui ouvrent Philosophie de la relation explorent cela de manière poétique, pourrait-on dire, en imaginant le paysage du chaos, le monde avant les hommes, où le poème enfoui dans un effondrement de la terre surgit de sa propre forme. Et c'est un poème venu de soi-même et l'écho de cette parole sacrée née déjà de toute chose au monde, poème, relent, écho qui exhale et accompagne la stupeur sacrée. Et faire de la poésie, c'est donc accepter cela que le poème est contemporain au début du monde, à la création de la terre. L'éco-poétique sonore de Glissant tend ainsi vers l'orphisme, qui, d'après Pierre Hadot, constitue la nature en un vaste corps vivant dont l'homme participe, qu'il respecte et avec lequel il cherche à entrer en communication, sauf qu'il n'y a pas vraiment de division chez Glissant, mais qui aussi cherche l'essence de la poésie, un point où toute expression se fond. Chez Glissant, écrire, chanter ou rêver ce poème n'est pas un mouvement pourtant nostalgique pour retrouver une harmonie, une origine ou encore une langue sacrée avant la chute de Babel, mais plutôt de vivre une temporalité chaotique, je dirais, de simultanéité striée où nous ressentons en nous l'âge de la terre. J'entends tam-tam et cloche fêlée, écrit-elle. Musique avec la flûte de la montagne, j'entends soleil et nuit, j'entends la lune de plein jour, êtes-vous seul à écouter nos paroles? Donc ici, Baudelaire, avec la cloche fêlée, est à côté de tam-tam, les astres émettent des sons, et tout ce concert de sons fait éclater toutes les langues du monde, justement, cris et paroles, hein, aucune distinction, et qui implique aussi une écoute. Et la mise en scène de la sonorité, c'est une manière de rendre visible un dialogue qui se réalise en opacité. Fréquenter le monde devient une question de vibration, de résonance, où nous participons tous. De là survient un autre savoir, né d'une conjonction de sens, et je cite encore, « l'œil rêvé aux profondeurs de la terre, qui en écoute les variations. C'est toute science. » Alors, pour terminer, Félix Guattari écrit dans Les Trois Écologies, « Moins que jamais, la nature peut être séparée de la culture et il nous faut apprendre à penser transversalement les interactions entre écosystèmes, mécanosphères et univers de référence sociaux et individuels. » Il me semble que Glissant inscrit la sonorité dans son écriture pour actualiser une telle pensée transversale. Pressentant une autre manière de fréquenter le monde, où les vibrations et les échos remplacent la prétention à la compréhension, les dimensions sonores s'opposent, pourrait-on dire, au centrisme oculaire qui a dominé la pensée occidentale ou continentale et la rend, comme le suggère Fred Moten, aveugle ou plutôt sourde au bruit. On le sait, la crise climatique implique aussi des changements dans les paysages sonores. Les glaces qui fondent crient, la déforestation laisse dans son sillage un paysage sonore où les chants des oiseaux, les cigales et les grenouilles sont remplacés par le craquement de feu et le bruit tranchant des machines, par exemple, et la liste pourrait se faire longue. Et dans sa dimension utopique, le paysage sonore, plongeant dans les temps géologiques et rejoignant la poésie, apporte une mémoire profonde, primordiale, qui, elle, peut-être permet de rêver la possibilité d'un autre avenir, là où la musique se touche, comme il avait écrit, l'eau monte dans la forêt, les clairières sont des tambours élans. En écoutant la nature, la géographie, les paysages, aussi bien que les minuscules détails du lieu, glissant forge une écriture du tremblement qui résonne avec les paysages, tel qu'un œil qui écoute. Merci.